Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro, bien contente, bien heureuse de vous accompagner pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Ben, c'est les prochains Jeux paralympiques qui auront lieu du 7 au 18 septembre du côté de Rio de Janeiro. Et ça, c'est au Brésil, bien sûr. Et on s'intéresse beaucoup à cet événement ici au Canal M. Aujourd'hui, je jette un coup d'œil particulier à ces athlètes qui, en ce moment, s'entraînent, travaillent fort pour se qualifier aux Jeux ou qui souhaitent, ils sont déjà qualifiés peut-être pour certains d'entre eux, qui souhaitent y performer, espérant bien sûr la récompense ultime, c'est-à-dire une médaille. En deuxième partie d'émission, Marie-Claude Molnar, jeune athlète de paracyclisme. Elle est en plein processus de qualification pour les Jeux paralympiques et on lui parlera de voir comment ça se passe, cette préparation. Aussi, une rencontre avec l'une des athlètes les plus admirées, respectées et connues du grand public, Chantal Petitclerc, vous l'aurez peut-être deviné, athlète paralympique, donc 21 fois médaillée, dont 14 médailles d'or. Et Chantal Petitclerc n'est plus sur les pistes. Hein. Elle a quitté en 2008 pour... ses derniers Jeux étaient ceux de Pékin. Elle a quitté la compétition, mais elle a un rôle pour les prochains Jeux qui est précieux, essentiel, celui de promouvoir le sport paralympique en tant que chef de mission du Canada. Et pour ce faire, elle a amorcé en décembre dernier une vaste tournée pan-canadienne. Et pour cet arrêt à Montréal, on l'a avec nous en studio. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Merci d'être là. Un grand, grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on le souhaitait et là, ça se concrétise.
C'est un
grand
plaisir. Bonheur. Merci.
Donc, tournée pan-canadienne qui s'est amorcée le 3 décembre dernier avec, la couverture de plusieurs grandes villes. Ottawa, Gatineau, Calgary, Toronto, Halifax. Il y aura Vancouver aussi prochainement.
Absolument.
Aujourd'hui, Montréal.
Oui.
Ça fait quoi d'être dans votre ville et de rencontrer ces athlètes locaux?
Bien, ça fait un grand, grand plaisir d'autant plus que tout le monde a répondu à l'invitation. Les médias étaient nombreux. Nos athlètes l'ont apprécié. Et c'était un petit peu ça l'objectif hein, aussi. On avait cette idée de cette tournée-là, de sensibilisation, mais aussi de mettre en contact les athlètes locaux avec les médias pour développer cette relation-là, mettre en contact aussi des athlètes de différents sports entre eux pour un petit peu aider à solidifier l'esprit d'équipe quand on va arriver aux Jeux de Rio.
Oui, j'imagine que cet esprit d'équipe-là, c'est un besoin pour les athlètes paralympiques qui seront là à Rio en septembre.
Oui, absolument. Et puis, je dirais que c'est un des grands défis parce que souvent, on part, toujours, hein, on part de sports, dans ce cas-ci, 17 sports différents. Donc, des équipes différentes qui s'entraînent dans des endroits différents, des sports d'équipe, des sports individuels, dans l'eau, en tout cas, tu sais. Et là, l'idée, ces gens-là se connaissent, voyagent ensemble, mais sport par sport. Donc, le grand défi, c'est de dire comment on prend chacun de ces sports-là et qu'une fois qu'on débarque à Rio, on n'est pas 17 sports, on est une seule équipe. Et ça, c'est du travail d'esprit d'équipe. Il faut que les athlètes se rencontrent, il faut que les athlètes se mettent à se suivre, à se supporter. Et moi, je pense que ça peut faire vraiment une belle différence sur l'atmosphère qu'on aura au jeu, sur aussi l'espèce de confiance qu'on a, le sentiment de se dire, OK, moi, j'ai mon équipe qui me supporte et tout ça. Et puis, je pense que ça a des impacts là, sur les résultats.
Cette tournée pan-canadienne, elle a aussi l'objectif de promouvoir le sport paralympique chez les Canadiens, tous les Canadiens. C'est nourri, je pense, Chantal, d'une longue réflexion de votre part, ça.
Bien, en fait, on a plusieurs réflexions, mais une des choses qu'on se rendait compte, quand moi j'ai été nommée comme chef de mission, on se disait que souvent, ce qu'on se rend compte avec les médias, c'est vrai qu'il y a une couverture médiatique qui est plus grande que jamais auparavant, mais souvent, les médias vont un petit peu se réveiller, entre guillemets, la journée de la cérémonie d'ouverture, et là, ils vont s'emballer pour les sports paralympiques, pour certains athlètes. Et puis, bon, ils vont être là avec le retour des athlètes, avec les médailles. Et on se disait, dans le fond, pourquoi pas essayer de parler de paralympisme pendant toute l'année. Mm-hmm. Essayer de garder un petit peu nos athlètes, leur performance, leur sélection, de suivre un petit peu ce parcours-là. Et les gens, les communautés et les médias ont bien répondu à l'appel. L'idée aussi, c'était de se dire, on veut, souvent, les athlètes vont connaître le chef de mission quand on arrive à Rio. Et là, on se disait, non, c'est un bon message aussi de dire, moi, comme chef, je me déplace, je vais vous voir chez vous, où vous vous entraînez, rencontrer les entraîneurs aussi. Encore une fois, c'est de construire un bel esprit d'équipe.
Oui, on en parle de plus en plus de couverture médiatique, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on en parle bien, toutefois?
Bien, on en parle mieux, ça, c'est sûr, parce que, je veux dire, moi, quand j'ai gagné mes premières médailles à Barcelone en 92, tout le monde voulait parler de mon accident. Tu sais, je veux dire, tout le monde me trouvait donc bien courageuse, et puis tu revenais avec un record canadien, une médaille de bronze, puis c'était encore l'époque, là, presque, c'est ça, tu sais, puis même à l'époque, des gars comme André Vigée, qui étaient des athlètes de haute performance incroyable, on dirait que personne ne pouvait s'empêcher d'y donner une petite tape dans le dos puis de dire qu'il était courageux. Donc ça n'existe plus, tu sais. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif parce que là, on parle de performance. Et une des choses qui est différente aussi, c'est que même, je dirais, quand on recule pas si loin que ça, là, aux Jeux d'Athènes, souvent, j'ai l'impression qu'on se trouvait une vedette paralympique et que c'était la seule athlète paralympique. Et bon, dans mon cas, tant mieux, hein, souvent c'était moi. Mais on parlait d'un ou d'une athlète paralympique, puis on dirait que ça suffisait aux médias. Tu sais, c'était comme le porte-parole des Jeux paralympiques. Alors que là, quand on regarde les derniers Jeux de Londres, bien, on a quand même plusieurs athlètes de sports différents, de résultats différents, qui ont une place dans les médias. Donc, est-ce que c'est parfait? Je dirais que non, c'est sûr. Mais au moins, j'ai l'impression qu'on met vraiment l'accent sur la performance et beaucoup moins sur le handicap. Et moi, c'est drôle, hein, parce que j'irais jusqu'à dire que ce que j'aime des journalistes présentement, j'ai l'impression que les journalistes font plus leur devoir qu'avant. Les journalistes le savent, hein, t'sais, ils vont savoir. Auparavant, là, t'sais, même moi, même quand j'ai terminé mes Jeux, t'sais, tu gagnais, tu allais dans une course aux États-Unis et puis tout le monde disait « Bravo, Chantal a gagné ». Alors que maintenant, ils vont dire « OK, qui était là? Hein? Y avait-tu du monde? C'était qui? C'était des champions? » T'sais, les gens sont plus... les médias sont quand même beaucoup plus analytiques. Et ça, je trouve que c'est très positif parce que ça veut dire qu'ils vont regarder le sport paralympique comme n'importe quel autre sport.
Oui, oui, voilà. Si on veut les aider un petit peu, ces journalistes-là qui seront présents lors des Paralympiques de Rio en septembre, quelle histoire à surveiller? Quel athlète? Est-ce qu'il y en a certains dont vous auriez envie de nous parler, Chantal, aujourd'hui?
Oh mon Dieu, il y en a tellement et puis c'est difficile pour moi de vraiment choisir. Je pense que si on reste ici au Québec, c'est sûr qu'on a des athlètes comme Benoît Huot, que tout le monde connaît, qui en est à ses 5e jeu, qui va essayer de gagner encore des médailles après ses 19 médailles, qui peut-être va prendre sa retraite par la suite aussi, on ne sait pas trop. Mais à côté de lui, il y a Aurélie Rivard, là, qui est une étoile montante, qui vraiment a un potentiel de médaille incroyable. Si on parle de sport, et puis je sais, vous allez parler avec Marie-Claude Molnar un petit peu plus tard, que je connais très bien, cette équipe-là est une équipe exceptionnel. L'environnement de haute performance, les entraîneurs qu'ils ont, l'attention qu'ils mettent à faire du recrutement, mais aussi à vraiment, je cherche mes mots, mais vraiment la réponse, ça, c'est ils essaient vraiment d'amener une culture de haute performance dans leur programme. Oui. Et ça donne des résultats là, incroyables, mais sur toute l'équipe. Là, c'est vraiment génial ce qu'ils font.
Cette haute performance, peut-être vous la côtoyez un petit peu moins depuis que vous avez quitté la compétition en 2008 à Pékin. Est-ce que ce rôle de chef de mission, c'est une façon de renouer avec cette adrénaline et ce désir que vous avez de la compétition, de la performance?
Bien, c'est sûr que pour moi, c'est une façon de rester dans le milieu sportif, dans le milieu de la haute performance. Je veux dire, j'ai quitté les Jeux, j'ai travaillé un petit peu pour l'équipe britannique comme entraîneur, donc je suis allée là-bas. J'ai été chef de mission aussi pour l'équipe de Glasgow. Donc ça ne m'a jamais vraiment quitté très, très loin ou très, très longtemps. Mais c'est sûr que ça fait partie de ce que j'aime. Tu sais, j'ai une passion pour ça et pour les Jeux aussi. Mais aussi, c'est une façon pour moi de répondre à la question tout ce que j'ai appris à travers 5 Jeux paralympiques, à travers 21 médailles, comment je fais pour leur donner?
Ouais.
Tu sais, parce que sinon, ça sert à quoi? Je veux dire, tu sais, tu gardes tout ça et puis tu ne fais rien avec. Non, tu sais, je veux dire, je pense que cette expertise-là, cette sagesse peut-être aussi, et même des fois juste des petits trucs, tu sais, il faut utiliser tout ça. Et puis comme chef, c'est fantastique parce que tu arrives là et tu travailles avec une équipe médicale, une équipe d'opération, une équipe de médias, et là, tu peux toujours être la voix qui dit « OK, comment ça va aider nos athlètes? T'sais, est-ce que ça répond aux besoins de nos athlètes à Rio? » Et évidemment, je suis hyper crédible parce que, un, je l'ai vécu et j'ai eu du succès. Donc, je pense que ça me met dans une bonne position pour être capable de redonner à mon sport.
Vous parliez de ces besoins de nos athlètes paralympiques. Quels sont-ils pendant les Jeux?
Bien, évidemment, chaque sport, chaque athlète a des besoins différents et particuliers, mais en général, quand on s'approche, et là, on n'est pas loin du 100 jours avant les Jeux,
oui.
Il faut vraiment là, qu'il y ait un petit tunnel qui rétrécit et les athlètes doivent se concentrer uniquement sur leur préparation psychologique et physique, sur ce qu'ils ont besoin un petit peu d'améliorer, de corriger avant les Jeux. Et quand on arrive aux Jeux, le défi... Et c'est dur à expliquer parce qu'on demande à des individus de performer dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans un village qu'ils ne connaissent pas, un lit qu'ils ne connaissent pas,
ouais.
Un site de compétition qu'ils n'ont jamais vu.
Ouais.
Donc, c'est vraiment là, quand on part de sortir de sa zone de confort, là, c'est ultime là, pour un athlète. Donc, pour lui, le défi, c'est vraiment de s'assurer de, OK, comment tu te prépares à ça? Comment tu t'assures qu'il n'y a rien qui va te déranger malgré tous les éléments que tu ne contrôles pas et qu'au contraire, tu débarques là-bas et tu es capable de livrer la meilleure performance de ta vie?
Oui. Il y a gérer les victoires, ce qui est très, très plaisant. Il y a aussi gérer les défaites. Qu'est-ce qu'on dit à un athlète qui s'est entraîné pendant des mois, des années, qui s'attend à donner la meilleure performance? C'est ce qu'il souhaite,
oui,
évidemment,
absolument.
Mais ça se passe pas.
Bien, il y a tout plein de situations, je veux dire, qui peuvent se passer et auxquelles il faut répondre quand on est chef de mission. C'est vrai qu'il y a les victoires. Il y a les défaites aussi, il y a les déceptions. Parfois, il y a des victoires où quelqu'un aurait aimé même battre un record du monde, il ne l'a pas battu, tu sais, c'est jamais... Et ça, il faut avoir une espèce... Moi, je dirais que la réponse à ça, c'est l'écoute. Parce que chaque athlète est différent, va vivre les choses de façon différente, va avoir besoin de conseils ou de commentaires aussi, selon sa personnalité. Donc, la plus grande qualité d'un chef, je pense, c'est d'être capable d'être sensible à ça, d'être à l'écoute, de respecter aussi l'équipe de l'athlète parce qu'on n'est pas, l'entraîneur, on n'est pas le psychologue sportif. Donc, c'est à nous de dire « oui, je suis là pour toi ». Mais en même temps, ton plan de match, c'est ton plan de match avec ton entraîneur, avec ton psychologue sportif, avec ton équipe. Donc il y a toute cette espèce d'équilibre-là entre... être présent, ne pas être intrusif.
Oui. Comprendre son rôle, en fait.
Oui, c'est ça, comprendre son rôle. Et puis, mais vraiment, tu sais, je pense que la clé là-dedans, c'est que les athlètes sachent où nous trouver, et soient confortables à peu importe ce qu'ils ont à nous raconter.
Chantal, c'est le défi sportif Altergo qui débutait hier. C'est jusqu'au 1er mai. Ça fait depuis 1998 que vous vous impliquez en tant que porte-parole. Quelle place ça prend dans votre vie, le défi?
Ah, le défi sportif Altergo, c'est une famille pour moi. Je veux dire, j'y étais quand j'étais athlète. J'ai participé au défi sportif Altergo. Maintenant, je suis porte-parole depuis des années. Et chaque année, je retrouve une équipe tellement bien organisée, professionnelle et en même temps toujours aussi passionnée, avec une espèce de conviction qu'ils sont capables de faire changer les choses et de faire avancer les choses pour les personnes handicapées de tout niveau, de tout âge, à travers l'activité physique et le sport. Évidemment, moi, j'y crois. Tu sais, je pense que c'est pour ça que j'y retourne chaque année.
Ça prend aussi quelle place, ce rôle de modèle? Est-ce parce que vous en êtes un, bien sûr, pour tous ces jeunes athlètes de la relève, professionnels ou pas encore en devenir? Est-ce que ça peut être lourd parfois ou ça vous inspire?
Je le vis pas vraiment avec... c'est pas pesant pour moi. Je dirais que je me suis jamais vraiment donné la mission d'être un porte-parole, un modèle, que ce soit pour les athlètes paralympiques ou pour les personnes qui vivent avec un handicap. En même temps... quand je peux et si je peux avoir un impact, une influence ou inspirer quelqu'un, ben je me dis tant mieux, là, tu sais, ça me fait plaisir. Mais ce que je fais, c'est jamais un sacrifice. Hein. Je le fais parce que j'aime ça, parce que ça m'apporte quelque chose à moi aussi, et que l'impression de contribuer à quelque chose qui est important pour moi, ben c'est... C'est valorisant, en fait.
Et cette contribution, elle va se poursuivre après au Sénat. Ça aussi, c'est une façon de poursuivre votre impact.
Oui. Le Sénat, c'est une belle aventure, une nouvelle vie vraiment qui commence. Un univers que je connaissais pas plus que la grande majorité des citoyens. Et puis, je découvre une équipe très, très généreuse, qui travaille fort, qui vraiment a à cœur l'intérêt de ce pays-là, des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se concrétiser. Mais encore une fois, j'ai vraiment cette conviction que avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai comme... expertise, comme compétence, ben, je suis capable d'avoir un impact et d'être une voix, pas juste pour les sportifs, pas juste au domaine de la santé, mais aussi pour les personnes qui vivent avec un handicap. Mmh.
Pour le moment, la tournée pancanadienne se poursuit aujourd'hui, donc à Montréal, par la suite Winnipeg, Saskatoon, Vancouver. J'imagine que chaque ville amène son ambiance, amène également ses défis,
oui,
Chantal.
Oui, absolument. Chaque ville est différente. Je dirais les athlètes sont différents, les sport, l'ambiance, les gens qu'on rencontre. La seule constante, et c'en est une très bonne, c'est que on envoie des invitations et les gens répondent à l'appel. Donc, les gens sont là, les médias sont là, et ça, pour moi, là, c'est vraiment... Ça démontre qu'il y a une progression énorme qui a été faite au niveau du sport paralympique partout au Canada.
Chantal Petitclerc, un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui avec nous en studio. On vous suivra. On sera là 17 au 18 septembre 2016 avec vous et vos 165 athlètes et leurs équipes, bien sûr, respectives. Et après, bien, on vous suit du côté du Sénat.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Marie-Claude Monin.
Bonjour.
Jeune athlète de paracyclisme qui se prépare en ce moment à se qualifier pour les Jeux de Rio 2016. Marie-Claude, vous avez subi il y a quelques années un grave accident de la route. Oui. Bon, un automobiliste qui vous a percuté à 110 km/h alors que vous étiez, bon, déjà à vélo. Comment cet accident a changé la façon dont vous pratiquez votre sport, le rapport aussi au cyclisme?
Bien, c'est sûr que l'accident, ça fait 10 ans. Donc, l'accident est survenu en juillet 2005. Donc, cette année, ça va déjà faire 11 ans depuis que c'est survenu. Et en fait, de la manière que ça, c'est sûr que ça a surtout eu un impact sur ma vie. Ça a eu un impact positif plus que négatif. En fait, avec l'accident, bon, c'est sûr que bon, à 110 km/h, c'est un impact assez majeur. Donc, j'ai subi là des blessures quand même assez graves au niveau physique corporel, mais surtout un traumatisme crânien. Puis la blessure invisible, mais c'est celle qui laisse le plus de traces, c'est celle qui m'affecte un peu plus. Alors, avec ça, c'est sûr qu'avec les années et avec le sport. En étant athlète paralympique, le sport m'a beaucoup aidé dans la réadaptation et ça a fait en sorte en fait là, que mon niveau d'endurance s'est beaucoup amélioré. Des choses comme ça là, comme par exemple bon si je vais essayer de résoudre un problème par exemple lorsque je suis fatiguée, ça va me prendre un peu plus de temps qu'à l'habitude pour le résoudre et le sport en fait la manière que je fais du sport comparativement à avant l'accident en fait c'est sûr que maintenant en étant cycliste de haut niveau j'ai une meilleure compréhension du cyclisme en tant que tel étant donné que avant l'accident je faisais du cyclisme mais pour mon propre plaisir donc j'avais pas nécessairement une routine d'entraînement. Quoique mon objectif initial, la question initiale que je m'étais posée, c'était à savoir quelle était la plus grande distance que je peux parcourir sur mon vélo en une seule journée. Et c'est dans la réalisation de cet objectif-là que l'accident est survenu.
Marc-Claude, vous êtes médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Londres 2012. Donc, Rio, ce serait votre deuxième participation à des Jeux paralympiques. Mais d'abord, comment s'est passée la première expérience à Londres?
La première expérience à Londres, pour commencer, là, ça a été toute une surprise parce que j'ai commencé à faire la compétition de vélo en 2009. Et avant 2009, j'avais jamais fait de sport de haute performance. Alors, j'avais pas nécessairement d'expérience en tant qu'athlète. Alors, tout était un nouvel apprentissage. Et je dirais que, dans le sens, pas nécessairement la chance que j'ai eue, mais en fait, ma vitesse de progression dans le sport s'est fait quand même assez rapidement, je dirais. Et d'avoir pu être sélectionné là, sur l'équipe canadienne qui a représenté le Canada aux Jeux de Londres, c'est certain que pour moi, c'est arrivé comme une surprise. Je m'y en attendais pas du tout. Quoique, bon, c'est certain là, que j'avais les doigts croisés derrière le dos. J'espérais justement être assez bonne pour pouvoir être sélectionnée. Et ce que je retiens surtout de cette expérience-là, c'est que, premièrement, la première impression en arrivant dans le village des athlètes, c'est à quel point c'est impressionnant, à quel point c'est gigantesque de réaliser que, premièrement, bon, c'est pas juste le Canada, mais c'est vraiment le monde entier qui est là à la même place, au même moment, pour la même raison, c'est-à-dire décrocher l'or pour son pays. Et donc, cette réalisation-là, c'est la première réaction qui reste. Et puis, du coup que c'est passé, là, c'est sûr qu'on focus sur le travail à accomplir. Et je dirais que pour moi, ce que je retiens surtout des Jeux de Londres, c'est pas nécessairement... Oui, c'est sûr que oui, il y a une partie de l'expérience, mais c'est surtout un moment très précis. Et ce moment-là, c'est quand j'étais durant la course du contre-la-montre et que j'ai réalisé que j'étais en train de rattraper une des personnes de ma catégorie, ce qui faisait en sorte que j'étais pour grimper sur le podium et donc de remporter une médaille. Donc, cette, cet instant précis-là, cet instant de réalisation-là, pour moi, là, c'est ce que je retiens davantage des jeux en dehors de l'expérience en général.
Et vous nous le racontez, on a des frissons lorsqu'on peut. On tente de ressentir ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là, Marie-Claude. Oui. Maintenant, Jeux de Rio du 7 au 18 septembre, vous êtes en train de vous qualifier pour ces Jeux. Comment ça se passe, l'entraînement?
L'entraînement va très bien. Comme j'expliquais à des élèves tout à l'heure, parce que je donnais une conférence dans une école primaire tantôt, et comme je disais aux élèves, c'est que généralement, les gens, quand ils font du vélo, c'est bon, ça va être durant l'été. Donc, si on regarde, par exemple, de mai à juin, ça va être un peu comme pour des élèves, ça va être la période d'examen. Mais on ne veut pas arriver à notre période d'examen sans avoir étudié, sans avoir fait nos devoirs. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un processus qui se fait à l'année longue. Donc, il y a tout un processus de préparation, justement, d'entraînement. Et cette année, étant donné que oui, c'est une année olympique, c'est une année qui est particulièrement plus importante que d'autres années, mais qui le sont quand même tout autant. Mais c'est certain qu'une année olympique, on veut vraiment bien faire. Et avec l'expérience que j'ai pu acquérir au cours des années, parce que là, c'est quand même ma 8e saison de compétition.
Oui.
Donc, avec l'expérience que j'ai pu acquérir au cours des années, je me connais plus en tant que personne et je me connais plus en tant qu'athlète. Donc, je connais un peu plus les processus qui vont faire en sorte que je vais pouvoir pousser les limites. Et avec l'aide de mon entraîneur et de toute l'équipe, en fait, là, qui est autour, là, qui donne un peu les conseils et la marche à suivre, on est en sorte de bien aiguiller justement la préparation et faire en sorte que je puisse être au maximum de mes capacités au moment que ça compte le plus.
Huitième année donc de compétition, huitième année aussi au défi sportif Altergo. Marie-Claude,
oui.
Ça prend quelle place dans votre parcours, le défi sportif Altergo?
Le défi sportif, ça prend une très grande place dans mon parcours parce que pour moi, le défi sportif, ça a été ma porte d'entrée pour ma carrière en sport paralympique. Je me souviens encore quand j'étais en réadaptation à l'Institut de réadaptation de Montréal en 2005, dans la salle de physiothérapie, la salle de marche, il y avait une affiche au mur du défi sportif.
Mm-hmm.
Et ce qui m'avait frappé de cette affiche-là, c'est le cycliste qui était dessus, qui, je l'ai connu un peu plus tard, c'est Marc Breton qui était sur l'équipe nationale. Et ce cycliste-là, j'ai remarqué qu'il lui manquait un bras. Alors, je me suis dit, si lui, il manque un bras, est-ce que moi aussi, je serais capable de faire de la compétition? Alors, je me suis posé la question. Puis, j'ai toujours dit que le seul moyen de trouver la réponse à cette question-là, c'est d'essayer. Parce que si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. Et j'ai pris part à ma première compétition du défi sportif justement le 1er mai 2009 vraiment j'avais aucune connaissance de ce que c'était que de rouler en peloton et il y a des personnes dans le peloton justement là qui m'ont aidé un peu là, qui ont pu me guider et cette course là je m'en souvenir toute ma vie. C'était ma première course et puis j'ai réussi à finir sur la troisième marche du podium. Alors j'étais très fière et puis j'avais aucune idée en fait que c'était pour être la première de nombreuses victoires.
Et oui. Et peut-être de cette victoire à Rio 2016, on vous le souhaite sincèrement,
merci.
Marie-Claude Molnar, pour les Jeux paralympiques de septembre. Et aussi un très beau défi sportif Altergo qui se poursuit jusqu'au 1er mai. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Oui, bien merci beaucoup, c'est très apprécié.
Au revoir.
Au revoir.
Défisportif.com pour en savoir davantage sur les horaires, les athlètes, les sports. Un événement, comme vous le savez, qu'on apprécie beaucoup ici. Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, c'est Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve, nous, demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.